Brothers and sisters,
frères et sœurs, je suis heureux de participer à cette veillée avec les jeunes de l'Église du monde entier. Je vous aime et j'apprécie cette occasion d'adorer Dieu ensemble. Suzanne vient de parler et a témoigné de principes importants. Et chacun d'entre nous sera béni et renforcé s'il applique avec constance dans sa vie quotidienne ce qu'elle a enseigné. Suzanne est une femme juste, une dame élue, et l'amour de ma vie. Et elle est très mignonne. J'ai médité et prié avec ferveur notre Père Céleste pour savoir comment je pourrais être en mesure de vous servir au mieux ce soir. Je prie pour que le pouvoir du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous, afin que nous réfléchissions à ce que nous avons besoin de penser, de ressentir ce que nous avons besoin de ressentir, et d'apprendre ce que nous avons besoin d'apprendre, afin de pouvoir faire ce que nous savons devoir faire, et finalement devenir ce que le Seigneur aspire à ce que nous devenions. Nila Maxwell était un disciple dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Il a été membre du Collège des 12 apôtres pendant 23 ans, de 1981 à 2004. La puissance spirituelle de ses enseignements et de son exemple de disciples fidèles ont béni et continuent de bénir de merveilleuses façons les membres de l'Église rétablie du Sauveur et les gens dans le monde. En octobre 1997, Sœur Bednar et moi-même recevions frère et sœur Maxwell à l'Université Brigham Young, Idaho. Neil L. Maxwell devait parler aux étudiants, au personnel et aux professeurs lors d'une réunion spirituelle. Chacun sur le campus attendait avec impatience sa visite à l'université et se préparait avec sérieux à recevoir son message. Précédemment, dans cette même année, Neil Maxwell avait subi 46 jours et nuits de chimiothérapie épuisante contre la leucémie. Peu après avoir terminé ses traitements et être sorti de l'hôpital, il a fait un bref discours lors de la conférence générale d'avril de l'Église. Sa rééducation continue et la thérapie continue ont progressé de façon positive pendant les mois de printemps et d'été. Mais sa force physique et son endurance étaient néanmoins limitées lorsqu'il s'est rendu à Rexburg. Après avoir accueilli frère et sœur Maxwell à l'aéroport, Suzanne et moi les avons emmenés en voiture chez nous pour qu'ils se reposent et prennent un déjeuner léger avant la veillée. Ce jour-là, au cours de nos conversations, j'ai demandé à frère Maxwell quelle leçon il avait tirée de sa maladie. Je me souviendrai toujours de la réponse précise et profonde qu'il a donnée. « Dave, m'a-t-il dit, j'ai appris qu'il est plus important de ne pas se dérober que de survivre. » Sa réponse à ma question était un principe grâce auquel il avait acquis une grande expérience au cours de sa chimiothérapie. En janvier 1997, alors que frère Maxwell et sa femme roulaient vers l'hôpital, le jour où il était prévu qu'ils commencent la première série de soins, ils se sont garés dans le parking et ont fait une pause pour passer un moment ensemble. Frère Maxwell a poussé un profond soupir et a regardé sa femme. Il lui a pris la main et a dit « Je veux juste ne pas me dérober ». À la conférence générale d'octobre 1997, dans son message intitulé « Appliquer le sang expiatoire du Christ », frère Maxwell a enseigné avec une grande sincérité, je cite. « Ensuite, en affrontant nos épreuves, nous pouvons aussi supplier le Père, comme l'a fait Jésus, afin de ne pas reculer, ce qui signifie faire retraite ou se dérober. Ne pas se dérober est beaucoup plus important que survivre. De plus, boire une coupe amère sans devenir amer fait aussi partie de l'imitation de Jésus. » Fin de citation. La réponse de frère Maxwell à ma question m'a fait réfléchir aux enseignements d'Orson F. Whitney, qui a aussi été membre du Collège des 12 apôtres. Je cite. « Aucune douleur que nous endurons, aucune épreuve que nous subissons n'est inutile. Elle sert à notre éducation, à l'acquisition de qualités telles que la patience, la foi, la force d'âme et l'humilité. Tout ce que nous souffrons et tout ce que nous endurons, particulièrement quand nous endurons patiemment, édifie notre personnalité, purifie notre cœur, fait grandir notre âme et nous rend plus sensibles et plus charitables, plus digne d'être appelé enfant de Dieu. Et c'est par le chagrin et la souffrance, les larmes et les tribulations que nous obtenons l'éducation que nous sommes venus acquérir ici-bas. Fin de citation. Ces écritures concernant les souffrances qu'a subies le Sauveur quand il s'est offert en sacrifice expiatoire infini et éternel me sont devenues encore plus poignantes et plus significatives. C'est pourquoi je te commande de te repentir. Repens-toi, de peur que je ne te frappe du sceptre de ma parole, de ma fureur et de ma colère, et que tes souffrances ne soient atroces. Et tu ne sais pas combien elles sont atroces. Tu ne sais pas combien elles sont extrêmes. Oui, tu ne sais pas combien elles sont dures à supporter. Car voici, moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. Mais s'ils ne se repentent pas, ils doivent souffrir, tout comme moi. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi Dieu, le plus grand de tous. Et elles m'ont fait saigner à chaque pore, et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Et j'ai voulu ne pas devoir boire la coupe amère, mais je n'ai pas voulu non plus me dérober. Néanmoins, gloire soit au Père. J'ai bu et j'ai terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants des hommes. Le Sauveur ne s'est pas dérobé à Gethsémané, ni au Golgotha. Frère Maxwell ne s'est pas dérobé non plus. Ce grand apôtre a avancé avec constance et a reçu en bénédiction du temps supplémentaire dans la condition mortelle pour aimer, servir, enseigner et témoigner. Les dernières années de sa vie ont été un extraordinaire point d'exclamation à son exemple de disciple dévoué. Par ses paroles et par ses actes. Je crois que la plupart d'entre nous s'attendraient probablement à ce qu'un homme doté de la capacité spirituelle, de l'expérience et de la stature de frère Maxwell affronte les maladies graves et la mort en ayant la compréhension du plan du bonheur de Dieu avec assurance, grâce et dignité. Et c'est bien ce qu'il a fait. Mais mon propos aujourd'hui est de témoigner que ces bénédictions ne sont pas réservés exclusivement aux autorités générales ou à quelques membres élus de l'Église. Depuis mon appel pour combler la vacance dans le Collège des Douze, causé par le décès de frère Maxwell, mes responsabilités et mes déplacements m'ont permis de faire la connaissance de saints des derniers jours fidèles, courageux et vaillants dans le monde entier. Je veux vous parler d'un jeune homme et d'une jeune femme qui ont influencé ma vie en bien, et grâce à qui j'ai appris des leçons spirituelles cruciales sur le fait de ne pas nous dérober et de permettre que notre volonté soit engloutie dans la volonté du Père. Le récit est vrai, et les personnes réelles. Cependant, je n'utiliserai pas les vrais noms des personnes concernées. J'appellerai le jeune homme John, et la jeune femme Heather. Avec leur permission, je citerai des passages choisis dans leurs journaux personnels. John est un détenteur de la prêtrise digne et a servi fidèlement comme missionnaire à plein temps. Après son retour de mission, il a fréquenté et a épousé une jeune et merveilleuse jeune fille, Heather. John avait 23 ans, et Heather vint le jour où ils furent scellés pour le temps et pour toute l'éternité dans la maison du Seigneur. Veuillez garder à l'esprit l'âge respectif de John et d'Heather pendant que se déroule cette histoire. Environ 3 semaines après leur mariage au temple, on diagnostiqua un cancer des os chez John. On découvrit aussi des nodules cancéreux dans ses poumons. Le pronostic n'était pas bon. John a écrit dans son journal: ce fut le jour le plus effrayant de ma vie. Pas seulement parce qu'on m'avait dit que j'avais un cancer, mais aussi parce que j'étais jeune marié et que j'avais le sentiment d'avoir échoué en tant que mari. J'étais le soutien et le protecteur de notre nouvelle famille. Et maintenant, au bout de 3 semaines dans ce rôle, j'avais l'impression d'avoir échoué. Je sais que cette pensée est absurde, mais c'est le genre de choses folles que je me disais dans ce moment de crise. Heather a noté: c'était une nouvelle dévastatrice, et je me souviens à quel point cela a changé nos perspectives. J'étais dans la salle d'attente d'un hôpital en train d'écrire des cartes de remerciement pour le mariage, pendant que nous attendions les résultats des examens de John. Mais une fois que nous avons eu appris le cancer de John, les cocottes minutes et autres batteries de cuisine ne semblaient plus aussi importantes. C'était la pire journée de ma vie. Mais je me souviens être allé au lit ce soir-là avec un sentiment de reconnaissance pour notre scellement au temple. Les médecins avaient accordé à John 30% de chances de survie. Cependant, je savais que si nous restions fidèles, j'avais 100% de chances d'être avec lui pour toujours. Environ un mois après, John a commencé la chimiothérapie. John a décrit son expérience. Les traitements me rendaient plus malade que je ne l'avais jamais été de ma vie. J'ai perdu mes cheveux, 20 kilos, et j'avais l'impression que mon corps était en train de tomber en morceaux. La chimiothérapie m'affectait aussi émotionnellement, mentalement et spirituellement. La vie faisait les montagnes russes pendant les mois de chimio, avec des hauts, des bas et n'importe quoi entre les deux. Mais à travers tout cela, Eder et moi gardions la foi que Dieu me guérirait. Nous le savions simplement. Eder a écrit ses pensées et ses sentiments. Je ne supportais pas de laisser John passer la nuit seul à l'hôpital. Aussi, je dormais toutes les nuits sur le petit canapé dans sa chambre. Nous avions beaucoup d'amis et de membres de la famille qui venaient prendre pendant la journée. Mais le plus dur, c'était les nuits. Je fixais le plafond et je me demandais ce que notre Père Céleste avait prévu pour nous. Parfois, mon esprit s'égarait dans des endroits obscurs et la peur de perdre John me vainquait presque. Mais je savais que ces idées ne venaient pas de notre Père Céleste. Mes prières pour obtenir du réconfort devinrent plus fréquentes et le Seigneur me donna la force de continuer. 3 mois plus tard, John subit une opération chirurgicale pour enlever une grande tumeur à la jambe. John a dit, « L'opération chirurgicale était une affaire énorme pour nous, parce que les examens pathologiques devaient être faits sur la tumeur, pour voir quelle proportion était viable et quelle part du cancer a été morte. Cette analyse nous donnerait une première indication de l'efficacité de la chimiothérapie et dans quelle mesure nous aurions besoin d'effectuer des traitements agressifs à l'avenir. » 2 jours après l'opération, j'ai rendu visite à John et à Heather à l'hôpital. Nous avons parlé de la première fois où j'ai rencontré John dans le champ de la mission, de leur mariage, du cancer et des leçons d'une importance éternelle que nous apprenons par les épreuves de la vie mortelle. Au moment où nous finissions notre réunion, John m'a demandé si je voulais lui donner une bénédiction de la prêtrise. J'ai répondu que c'était avec plaisir que je la lui donnerais. Mais tout d'abord, j'avais besoin de poser quelques questions. J'ai alors posé des questions que je n'avais pas prévues et auxquelles je n'avais jamais réfléchi auparavant. John, avez-vous la foi pour ne pas guérir? Si c'est la volonté de notre Père Céleste que vous soyez transféré dans votre jeunesse par la mort, dans le monde des esprits, pour continuer votre ministère, avez-vous la foi de vous soumettre à sa volonté et ne pas guérir? Frères et sœurs, j'étais franchement surpris par les questions que je me sentais poussé à poser à ce couple. Fréquemment dans les Écritures, le Sauveur ou ses serviteurs ont exercé le don spirituel de guérison et ont perçu qu'une personne avait la foi pour être guérie. Mais tandis que John, Heather et moi discutions et réfléchissions à ces questions, nous en sommes venus à comprendre que si la volonté de Dieu pour ce bon jeune homme était qu'il guérisse, cette bénédiction ne pourrait être reçue que si ce vaillant couple avait d'abord la foi pour ne pas guérir. En d'autres termes, John et Heather avaient besoin de vaincre, grâce au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, la tendance de l'homme naturel présente chez nous tous à exiger avec impatience et à insister incessamment pour obtenir les bénédictions que nous voulons et que nous croyons mériter. Nous avons découvert un principe qui s'applique à tout disciple dévoué. La foi forte dans le Sauveur consiste à accepter de se soumettre à sa volonté et son calendrier dans notre vie, même si l'issue n'est pas ce que nous espérions ou voulions. Il est certain que John et Heather auraient désiré la guérison, y auraient aspiré et auraient supplié de tout leur pouvoir, leur pensée, leur force pour l'obtenir. Mais ce qui est plus important, ils seraient disposés à se soumettre à tout ce que le Seigneur jugerait bon de leur infliger, tout comme un enfant se soumet à son père. En fait, ils devaient être disposés à offrir leur âme tout entière en offrande et prier humblement, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ce qui initialement nous semblait, à John, à Heider et à moi, être des questions déconcertantes, s'inscrivait dans un modèle omniprésent de paradoxe de l'Évangile. Réfléchissez à l'avertissement lancé par le Sauveur. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Il a aussi déclaré, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Et le Seigneur a conseillé à ses disciples des derniers jours, et par ta parole, beaucoup de hautains seront abaissés, et par ta parole, beaucoup d'âmes seront élevées. Ainsi, avoir la foi pour ne pas guérir semblait s'insérer de façon pertinente dans un modèle puissant de paradoxe profond qui exige que nous demandions, cherchions et frappions afin de recevoir la connaissance et la compréhension. Après avoir pris le temps nécessaire pour méditer sur mes questions, et après avoir parlé à sa femme, John me dit, « Frère Bednar, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas quitter Heather. Mais si la volonté du Seigneur est de me transférer dans le monde des esprits, alors je pense que j'accepterai. » Mon cœur s'est gonflé de gratitude et d'admiration en regardant ce jeune couple confronté à la plus exigeante de toutes les luttes spirituelles, le renoncement et la soumission de leur volonté à celle de Dieu. Ma foi s'est trouvée renforcée en voyant ce couple laisser ses désirs forts et compréhensibles de guérison être engloutis dans la volonté du Père. John a décrit sa réaction à notre conversation et à la bénédiction qu'il a reçue. Frère Bednar nous a fait part de la pensée de frère Maxwell qu'il vaut mieux ne pas se dérober que de survivre. Ensuite, il nous a demandé, « Je sais que vous avez la foi pour guérir, mais avez-vous la foi pour ne pas guérir ?» Ce concept m'était étranger. En substance, il me demandait si j'avais la foi pour accepter la volonté de Dieu, si celle-ci était que je ne guérisse pas. Si le moment s'approchait pour moi de passer dans le monde des esprits par la mort, étais-je préparé à me soumettre et à l'accepter ? John a continué. Avoir la foi pour ne pas guérir semblait contraire à l'intuition. Mais cette perspective a changé la façon dont ma femme et moi pensions, et elle nous a permis de placer totalement notre confiance dans le plan du Père pour nous. Nous avons appris que nous avions besoin d'acquérir la foi dans le fait que le Seigneur est aux commandes, quelle qu'en soit l'issue, et qu'il nous guidera de là où nous sommes vers là où nous avons besoin d'être. En priant, nous avons modifié nos requêtes. Au lieu de dire « S'il te plaît, guéris-moi », nous avons dit « S'il te plaît, donne-moi la force d'accepter l'issue que tu as prévue pour moi ». Puisque Frère Bednar était un apôtre, j'étais sûr qu'il me bénirait pour restructurer les éléments de mon corps et que je sauterais du lit et que je commencerais à danser ou à faire des choses spectaculaires de ce genre. Mais lorsqu'il m'a béni ce jour-là, j'ai été étonné que les mots qu'il prononçait soient presque semblables à ceux de mon père, de mon beau-père et de mon président de mission. J'ai compris qu'en fin de compte, peu importe quelles sont les mains qui sont sur ma tête, le pouvoir de Dieu ne change pas. Et sa volonté se fait connaître à nous individuellement et par ses serviteurs autorisés. Heider a noté, cette journée a été pleine d'émotions contradictoires pour moi. J'ai été convaincu que frère Bednar placerait ses mains sur la tête de John et qu'il le guérirait complètement du cancer. Je savais que par le pouvoir de la prêtrise, il pouvait guérir et je voulais tellement que cela arrive. Après qu'il nous a parlé de la foi pour ne pas guérir, j'étais terrifié. Jusque-là, je n'avais jamais eu à accepter le fait que le plan du Seigneur puisse inclure la perte de l'homme que je venais d'épouser. Ma foi dépendait de l'issue que je désirais. Pour ainsi dire, elle était unidimensionnelle. Terrifiante au début, l'idée d'avoir la foi pour ne pas guérir m'a finalement libéré de toute inquiétude. Elle m'a permis d'avoir la confiance totale que mon Père Céleste me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même et qu'il ferait ce qui était le mieux pour moi et pour John. La bénédiction a été donnée et les semaines, les mois et les années ont passé. Le cancer de John est miraculeusement entré en rémission. Il a pu terminer ses études universitaires et a obtenu un travail rémunérateur. John et Heather ont continué à renforcer leur relation et à être heureux ensemble. Quelque temps plus tard, j'ai reçu une lettre de John et de Heather, m'informant que le cancer était réapparu. La chimiothérapie a repris et une opération chirurgicale a été prévue. John a expliqué, non seulement cette nouvelle est arrivée comme une déception pour Heather et moi, mais elle nous a laissés perplexes. Y avait-il quelque chose que nous n'avions pas appris la première fois? Le Seigneur attendait-il quelque chose de plus de nous? Élevé en tant que saint des derniers jours, il était courant d'entendre à l'Église l'expression « Toutes les épreuves que Dieu nous envoie sont pour notre bien ». Eh bien, pour être honnête, je ne voyais pas comment cela pouvait me faire du bien. Alors j'ai commencé à prier pour obtenir davantage de lumière et pour que le Seigneur m'aide à comprendre pourquoi cette récidive du cancer survenait. Un jour que je lisais le Nouveau Testament, j'ai reçu ma réponse. Je lisais le récit du Christ et de ses apôtres qui étaient en mer lorsqu'une tempête s'est levée. Craignant que le bateau chavire, les disciples sont allés voir le Sauveur et lui ont dit « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» C'est exactement ce que je ressentais. « Ne t'inquiètes-tu pas que j'ai le cancer ? Ne t'inquiètes-tu pas que nous voulons fonder une famille ?» Mais en continuant à lire l'histoire, j'ai trouvé ma réponse. Le Seigneur les a regardés et a dit « Comment n'avez-vous point de foi ?» Et il étendit la main et calma les eaux. À ce moment, j'ai dû me demander « Est-ce que je crois vraiment à cela ? Est-ce que je crois vraiment qu'il a calmé les eaux ce jour-là ? Ou était-ce juste une belle histoire ?» La réponse est « Je le crois ». Et comme je sais qu'il a calmé les eaux, j'ai su instantanément qu'il pouvait me guérir. Jusqu'à ce moment, j'avais eu des difficultés à concilier mon besoin de foi en Christ avec sa volonté inéluctable. Je les voyais comme deux choses distinctes, et quelquefois j'avais l'impression qu'elles se contredisaient mutuellement. Je me demandais, pourquoi avoir la foi si à terme, c'est sa volonté qui doit prévaloir? Après cette expérience, j'ai su qu'avoir la foi, au moins dans mon cas, n'était pas forcément qu'il devait me guérir, mais qu'il pouvait le faire. Je devais croire qu'il pouvait, et après, quoi qu'il arrive, c'était à lui de choisir. Le fait de permettre à ces deux concepts de coexister dans ma vie, centrer ma foi sur Jésus-Christ et me soumettre totalement à sa volonté, m'a apporté un grand réconfort et une grande paix. Cela a été vraiment remarquable de voir la main du Seigneur dans notre vie. Les choses se sont mises en place, des miracles se sont produits et nous sommes continuellement reconnaissants de voir se dérouler le plan de Dieu pour nous. Frères et sœurs, je répète, pour souligner ce qu'a dit John. Le fait de permettre à ces deux concepts de coexister dans ma vie, centrer ma foi sur Jésus-Christ et me soumettre totalement à sa volonté, m'a apporté un grand confort et une grande paix. La justice et la foi ont certainement un rôle primordial pour déplacer les montagnes, si déplacer les montagnes accomplit les desseins de Dieu et que c'est en accord avec sa volonté. La justice et la foi ont certainement un rôle primordial dans la guérison des malades, des sourds ou des boiteux, si ces guérisons accomplissent les desseins de Dieu et qu'elles sont en accord avec sa volonté. C'est pourquoi, même avec une grande foi, beaucoup de montagnes ne seront pas déplacées. Et tous les malades et tous les infirmes ne guériront pas. Si toute l'opposition était éliminée, si toutes les maladies étaient supprimées, les buts premiers du plan du Père seraient contrecarrés. Un grand nombre de leçons que nous devons apprendre dans la condition mortelle ne peuvent être reçues que par les choses que nous vivons et que nous subissons quelquefois. Et Dieu attend avec confiance que nous affrontions l'adversité temporaire de la condition mortelle avec son aide, afin de pouvoir apprendre ce que nous avons besoin pour devenir à terme ce que nous devons devenir dans l'éternité. Cette histoire sur John et Heather est à la fois ordinaire et extraordinaire. Ce jeune couple est représentatif de millions de saints des derniers jours fidèles qui respectent leurs alliances dans le monde entier, qui se pressent en avance sur le sentier étroit et resserré avec une foi ferme en Christ et avec une espérance d'une pureté parfaite. John et Heather ne servaient pas à des postes élevés et visibles de direction dans l'Église. Ils n'étaient pas parents avec des autorités générales et ils avaient quelquefois des doutes et des peurs. À beaucoup de ces égards, leur histoire est tout à fait ordinaire. Mes frères et sœurs, ce jeune homme et cette jeune femme ont été bénis à travers les afflictions et les épreuves de façon extraordinaire, pour qu'ils apprennent des leçons essentielles pour l'éternité. Je vous ai fait part de cet épisode parce que John et Heather, qui sont simplement comme beaucoup d'entre vous, ont compris qu'il est plus important de ne pas se dérober que survivre. Ainsi, leur expérience n'était pas principalement une question de vivre et de mourir, mais d'apprendre, de vivre et de devenir. La puissante combinaison spirituelle de foi en Jésus-Christ et en son saint nom, d'humble soumission à sa volonté et à son calendrier, d'empressement avec une diligence inlassable et de reconnaissance de sa main en toutes choses, suscite les choses paisibles du royaume de Dieu qui apportent la joie et la vie éternelle. Ce couple a fait face à des difficultés apparemment écrasantes. Cependant, il a connu une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Il a eu une conduite paisible envers les enfants des hommes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera le cœur et les pensées de John et Heather en Jésus-Christ. Leur histoire est, a été, ou pourrait être celle de beaucoup d'entre vous. Vous faites face, avez fait face, ou ferez face à des difficultés semblables dans votre vie, avec le même courage et la même perspective spirituelle que John et Heather. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes apprennent les leçons de l'éternité par les épreuves et la souffrance, alors que d'autres apprennent ces mêmes leçons par le biais du sauvetage et de la guérison. Je ne connais pas toutes les raisons, tous les desseins, et je ne connais pas tout du calendrier du Seigneur. Avec Néphi, vous et moi pouvons dire que nous ne connaissons pas la signification de tout. Mais il y a certaines choses que je sais avec certitude. Je sais que nous sommes fils et filles d'esprit d'un Père céleste aimant. Je sais que le Père éternel est l'auteur du plan du bonheur. Je sais que Jésus-Christ est notre Sauveur et Rédempteur. Je sais que Jésus a mis en œuvre le plan du Père par son expiation infinie et éternelle. Je sais que le Seigneur, qui a été meurtri, brisé, peut porter secours et renforcer son peuple selon ses infirmités. Et je sais qu'une des plus grandes bénédictions de la condition mortelle consiste à ne pas nous dérober et à permettre que notre volonté soit engloutie dans la volonté du Père. Je ne sais pas tout sur la façon, le moment, l'endroit et la raison d'être de ces bénédictions. Cependant, je sais et je témoigne qu'elles sont réelles. Je témoigne que toutes ces choses sont vraies et que nous, vous et moi, en savons assez par le pouvoir du Saint-Esprit pour donner un témoignage sûr de leur divinité, de leur réalité et de leur efficacité. Mes frères et sœurs bien-aimés, j'appelle sur vous cette bénédiction. Si vous vous pressez en avant dans la vie avec une foi ferme en Christ, vous aurez la capacité de ne pas reculer. Je témoigne de cela et je demande cette bénédiction au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen.